Vous écoutez RFI, il est 22h à Washington, 5h à Lubumbashi.
Diane Berger.
Aux États-Unis, pas de poursuite, pas de procès pour Donald Trump. La justice valide l'arrêt des procédures contre le président élu, accusé d'ingérence électorale en 2020. Le milliardaire républicain prépare son retour au pouvoir dans une certaine opacité, vous l'entendrez. Au sommaire de ce journal également, la Côte d'Ivoire confirme l'arrestation de 6 membres présumés du groupe État islamique à Abidjan. Une nouvelle mobilisation en Géorgie contre le parti pro-russe au pouvoir. Et puis en sport, la fête en République démocratique du Congo pour célébrer le retour du tout-puissant Mazembe féminin, l'équipe triomphale en Ligue des champions féminines de la CAF. C'est une épée de Damoclès qui s'évapore au-dessus de Donald Trump. Les poursuites sont suspendues contre le républicain accusé d'avoir tenté de modifier le résultat de la présidentielle de 2020. Il échappe donc à la case nouveau procès en vertu de la doctrine du ministère américain de la justice qui, depuis 50 ans, ne poursuit pas un président américain en exercice. Le républicain, lui, continue de préparer son retour à la Maison-Blanche. Il a choisi la plupart des membres de sa future administration qui doivent à leur tour recruter leurs collaborateurs. Tout cela a un coût et là, un problème, l'opacité financière, Guillaume Noudin.
Lorsqu'ils s'étaient vus à la Maison-Blanche, Joe Biden et Donald Trump s'étaient engagés à une transition aussi douce que possible. Ça, c'était devant les caméras et cela avait duré 29 secondes. En coulisses, c'est apparemment un peu plus compliqué. L'équipe Trump n'a toujours pas signé le protocole d'accord prévu par la loi. L'équipe arrivante peut normalement bénéficier de financements fédéraux jusqu'à un peu plus de 7 millions de dollars pour rembourser ses frais de préparation et les recrutements de collaborateurs. Cela implique aussi que la nouvelle équipe dévoile combien elle dépense et surtout qui finance ses efforts. En clair, qui sont les donateurs derrière la constitution de l'administration au sens large. Et jusqu'ici, c'est le silence radio sur la somme globale engagée ou sur qui paye quoi et combien. Une opacité qui laisse la porte ouverte à toutes les interprétations sur d'éventuels conflits d'intérêts de la part de particuliers ou de secteurs économiques qui placeraient leurs hommes au cœur de l'administration. Contrairement aux campagnes électorales, il est également possible pour des étrangers de contribuer au financement de la transition et dans le cas présent sans que leur nom soit divulgué. En 2020, lors de l'arrivée de Joe Biden et en 2016, à la constitution de la première administration Trump, les protocoles d'accord avaient été signés malgré les tensions entre les camps rivaux. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
À noter, Donald Trump a précisé le montant des droits de douane qui s'appliqueront bientôt pour plusieurs pays. Les taxes vont augmenter de 10% pour les produits importés de Chine, 25% pour ceux venus du Mexique et du Canada. Le Canada qui répond en rappelant son rôle essentiel pour l'approvisionnement en énergie des États-Unis. Un accord de cessez-le-feu serait tout proche au Liban entre l'armée israélienne et le Hezbollah. C'est en tout cas ce que suggèrent Paris et Washington. Il s'agirait d'une trêve de 60 jours qui permettrait notamment aux troupes libanaises de se repositionner dans le sud du pays. D'ici là, les affrontements meurtriers continuent entre l'État hébreu et la milice alliée du Hamas et de Téhéran. Les frappes israéliennes d'hier lundi ont tué au moins 31 personnes. Et dans ce contexte, la FINUL, la force des Nations Unies au Liban, répète sa profonde inquiétude après des frappes meurtrières ces dernières semaines contre l'armée libanaise, des frappes imputées pour certaines à Israël. Selon un bilan donné par Beyrouth, ces attaques ont tué 45 soldats. En Côte d'Ivoire, les autorités confirment le démantèlement d'un réseau terroriste lié à l'État islamique. Une affaire qui date de juillet dernier mais qui n'a été révélée que récemment par nos confrères du journal français Le Monde. 6 personnes originaires d'Irak et de Syrie ont été arrêtées à Abidjan. Ça est un réseau qui avait des liens avec Madagascar et qui prévoyait de mener des actions violentes en Europe, Sidi Yantzane.
Une source gouvernementale ivoirienne confirme discrètement à RFI que l'unité antiterroriste a bel et bien arrêté 6 hommes irakiens et syriens dans la commune de Koumassi à Abidjan le 28 juillet dernier, et ce grâce aux renseignements des services secrets américains. Selon le quotidien Le Monde, à l'origine de ces révélations, l'opération a permis la saisie de faux papiers et d'une trentaine de cartes SIM dans l'appartement des suspects, plus tard interrogés par les services ivoiriens et leurs partenaires américains qui les soupçonnent soupçonnait de projeter un attentat aux Jeux Olympiques de Paris. En même temps que les interpellations à Abidjan, une opération similaire se déroulait 6200 km plus loin, à Madagascar. Les services malgaches épaulés par la DGSE française mettaient la main sur deux autres membres du même réseau. Toujours selon Le Monde, les renseignements américains et français suivaient ces suspects depuis des mois pour leurs liens avec l'organisation État islamique. Abidjan et Madagascar sont déjà confrontés au djihadisme venu du Sahel et du Mozambique, mais c'est la première fois que la présence de terroristes présumés directement originaires du Moyen-Orient est reconnue par les autorités ivoiriennes.
RFI a contacté les autorités françaises et malgaches à ce sujet. Elles n'ont pas souhaité faire de commentaires. Moscou se rapproche des talibans au pouvoir en Afghanistan depuis maintenant 3 ans. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, s'est rendu à Kaboul hier, lundi, un événement rarissime, car aucun pays au monde n'a reconnu officiellement jusqu'ici la légitimité du mouvement islamiste. Selon les talibans, la Russie aurait promis de les retirer bientôt de sa liste des groupes terroristes. L'ombre de la Russie qui plane sur la Géorgie à Tbilissi contre une élection qu'ils considèrent truquée, ils ont boycotté l'Assemblée. 61 députés d'opposition ne se sont en effet pas rendus à la séance inaugurale de la nouvelle législature du pays hier, un mois après les élections législatives du 26 octobre, officiellement remportées par le parti pro-russe au pouvoir Rêve géorgien. Mais le camp pro-européen n'en démord pas. Régis Janté, il s'est mobilisé hier dans les rues de la capitale.
C'est dans une ambiance de funérailles de la démocratie qu'a été installée cette 11e législature de la Géorgie indépendante. À midi, à l'heure où les 89 députés nouvellement élus du Rêve géorgien étaient réunis dans l'enceinte du Parlement, leurs opposants, peu nombreux sous une pluie froide, faisaient du tapage et parodiaient dans une ambiance funèbre les messages de la police anti-émeute.
Policiers, dispersez-vous dans l'ordre. Ne laissez pas ici les restes de la loi russe, les juges corrompus, la propagande. Sachez que le pouvoir est dans les mains du peuple.
Au micro, les voix des leaders politiques et de la société civile s'étranglent de colère et d'émotion. Dans la foule, le désespoir se lit sur les visages. Comme dans un baroud d'honneur, les sifflets et les huées saturent le ciel de Tbilissi au moment où, sur un écran géant installé sur les marches du Parlement, on entend le doyen de la future Assemblée égrener les noms des députés élus de la majorité. En fin d'après-midi, la manifestation se dispersera dans le calme et dans l'attente angoissée des répressions promises contre les partis et organisations pro-occidentales, promises par l'homme fort du pays, l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Au Japon, un incendie important s'est déclaré sur un site de l'agence spatiale japonaise lors du test d'une fusée Epsilon S. Aucun blessé signalé, mais c'est un nouveau revers pour le secteur aérospatial japonais qui multiplie les ratés depuis quelques années. Enfin, en football, le retour triomphal du tout-puissant Mazembe féminin. Les joueuses accueillies en fanfare à leur retour en République démocratique du Congo, 2 jours après avoir décroché au Maroc la toute première Ligue des champions de leur histoire. Reportage à Lubumbashi de Pascal Mangala.
Déjà à sa descente d'avion, Merveille Kanjinga s'est vu offrir un bouquet de fleurs par un supporter du TP. Un geste que l'attaquante de Mazembe gardera en souvenir toute sa vie.
Ça m'a fait très très bien de sortir comme ça et on t'a offert une fleur. C'est vraiment une grande chose, merci beaucoup toutes les personnes qui nous soutiennent.
Le groupe d'animation des 100% était à la baguette pour rendre particulier l'accueil des reines du football africain. Priscille Créteau, attaquante ivoirienne, était tout émue.
C'est l'émotion, nous sommes émus en tout cas. Nous remercions toute la population de Lubumbashi qui nous a supportés pendant tout ce temps-là, qui nous a soutenus. En tout cas, nous leur disons merci.
La fierté et l'honneur de la femme étaient tellement forts pour Irène Mbouyi, une supportrice des corpos, qu'elle a bravé, dame la pluie qui a arrosé Lubumbashi pour être à l'aéroport de la Loano.
C'est toujours les garçons qui gagnent. Maintenant, c'est notre tour. C'est pourquoi on vient ici accueillir les femmes. Moi, je me sens honorée plutôt et toutes les femmes.
La fête devra se poursuivre encore demain mardi au stade de Kamalondo, où il est prévu la présentation du trophée avant le coup d'envoi du match des garçons contre MC d'Alger. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
C'est la fin de ce journal. Dans 20 minutes, vous aurez rendez-vous avec l'actualité africaine. Mais tout de suite, il est 3h10 en temps universel, c'est l'heure de grand reportage.